la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Hier soir encore, 5 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza, dont 2 enfants âgés de 8 à 10 ans. Reste donc à savoir si la trêve du 10 octobre en est vraiment une. En France, l'affaire Naël se poursuit. Pour rappel, cette affaire est celle d'un policier accusé d'avoir, lors d'un contrôle de voiture, tué Naël Merzouk, 17 ans, le 27 juin 2023 à Nanterre. Et aujourd'hui, ce même policier, Fabien, s'est retrouvé devant la cour d'assises pour contester son renvoi. Ces événements nous posent une question. Comment résister ? Comment tenir debout quand les colères s'accumulent, quand l'injustice semble se répéter, quand l'extrême droite, elle, avance patiemment, méthodiquement ? On pourrait baisser les bras, mais il reste des espaces où l'on peut penser, raconter, contredire. Des espaces où l'on peut encore dire non, parmi eux les livres, les films, les récits. Ces lieux minuscules et pourtant immenses où l'on fabrique du sens et où l'on peut encore vaciller les certitudes. Et c'est justement de ça, de résistance dans le milieu de l'édition, dont on va parler ce soir, car la bataille des idées ne se joue pas seulement dans les meetings, elle se joue dans les librairies, dans les essais que l'on publie, dans les récits qu'on se transmet. En 2025, la littérature, le cinéma, les images restent plus que jamais des outils essentiels pour comprendre, questionner et oui, résister. Alors on ouvre des livres, on regarde des films et on continue de penser parce que c'est encore là que tout peut commencer. Bonsoir, encore rebonsoir, il est 19h et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris. Face aux attaques de l'extrême droite, le monde du livre tient son rang dans la résistance. C'est le titre de la tribune écrite par Stella Magliani-Belkacem et Jean Morisot, les deux gérants de la maison d'édition La Fabrique. Avec nous pour en parler ce soir, Jean Morisot, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Radio Campus. Avec grand plaisir, et c'est au micro de Béatrice que nous allons vous écouter. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir tout le monde.
Comment tu vas ?
Très bien, merci, et vous ?
Eh ben super ! Eh ben c'est à toi !
Ok, super !
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors bonjour, Jean Morisot, tu travailles depuis... tu permets que je te tutoie ?
Ouais, je te permets.
J'adore tutoyer. Donc depuis 2011, tu travailles à la maison d'édition indépendante La Fabrique, une maison d'édition qui a été fondée en 1998 par un certain Éric Hazan, lui-même qui fait partie d'une tradition aussi d'éditeur dans sa famille, avec la grande maison d'édition Hazan, qui a été créée au début des années, à la fin des années 20. Alors, vous avez donc publié cette tribune qui apparaît d'abord sur votre site internet. Et cette tribune, elle vient après, elle fait suite donc à une enquête qui est sortie le 23 novembre par le magazine Le Point, l'enquête du dimanche. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ?
Oui, l'enquête du dimanche, du Point. Qui, de mémoire, ça fait pas longtemps, mais s'intitulait « La lente dérive d'une maison d'édition radical chic ». Voilà. Mmh. Radical chic, pourquoi pas ? Chic, je sais pas, merci. Et radical, c'est vrai qu'on essaye de faire des livres qui prennent les problèmes à la racine, comme disait Marx. Et donc, cet article essayait de documenter notre dérive, mais il était bien en peine de le faire, puisqu'en fait, tout au long de cette enquête, il réchauffait des vieilles polémiques autour de nos livres, la plupart soulevées par la droite, l'extrême droite. Et donc, en fait, il montrait plutôt la cohérence de nos positions sur la Palestine, sur l'antiracisme et d'autres sujets depuis... depuis 25 ans, plus de 25 ans, puisque la maison est fondée en 98.
Mmh.
Voilà. Donc on retrouvait dedans des attaques contre Ourya Boutelja, qui est une militante décoloniale, qui a fondé le Parti des Indigènes de la République, qui a écrit des livres et qui a montré et pense la République française comme le résultat d'un pacte raciste et donc qui invite à une perspective de décolonisation de l'État et de la société française, voilà. Donc elle a eu le droit à tout depuis plusieurs années, homophobe, antisémite, racisme anti-blanc, etc. Des choses qu'on a en tête, et elle s'est toujours brillamment défendue de tout ça. Mmh. Voilà, et donc il réchauffait des choses comme ça. Aussi Andreas Malm, auteur d'un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline », qui était présenté comme le gourou un peu de l'écoterrorisme, puisqu'il était cité dans le décret des soulèvements de la Terre. Voilà un petit peu ce qu'on n'apprenait pas dans cet article.
Mais alors concrètement, qu'est-ce qui vous reprochait ?
Oui, donc de dériver là où on a toujours été. Bon, ça s'inscrit dans une campagne un peu plus générale, c'est ce qu'on a voulu dire dans la tribune... Qu'on a écrite ensuite, qui a été publiée par Le Monde, c'est de montrer que voilà, des attaques sur le monde du livre, il y a ce genre de choses, des campagnes de presse calomnieuses. On a récemment beaucoup de librairies qui ont été attaquées, dont les soirées sont perturbées par des gens qui viennent les accuser de défendre tel ou tel livre. Il se trouve qu'en ce moment, ça tourne beaucoup autour de la question de la Palestine. Et donc, quand vous présentez des livres qui défendent la Palestine et la résistance palestinienne, ben voilà, vous êtes accusé d'antisémitisme, etc. On a mille exemples de ça. Et les librairies sont en première ligne de ça, puisqu'elles ont pignon sur rue, elles sont dans l'espace public et elles, leurs livres sont derrière les vitrines. Donc il y a ça. Il y a eu d'autres... Bon, avant-hier, on apprend que la maison d'édition Libertalia et le ministre de l'Intérieur porte plainte contre cette maison pour publier et commercialiser un jeu de société qui s'appelle Antifa, c'était la première version, ça, qui s'appelle Fachorama, voilà. Ça a beaucoup irrité le syndicat de police Alliance et donc le ministère de l'Intérieur. Bon, voilà, les attaques sont multiples, mais elles sont coordonnées d'une certaine manière, quoi. Et elles viennent de la droite, de l'extrême droite, et puis à différents échelons, quoi. Que ce soit des plus hautes sphères du pouvoir, du ministère de l'Intérieur, jusqu'aux groupuscules et aux individus qui se croient autorisés à aller censurer des livres en librairie.
Mmh. Est-ce que vous sentez que vous faites quelque chose de mal ?
Non, non, pas du tout. Mais on fait quelque chose qui embête certaines personnes, ça c'est sûr. C'est le but.
Ouais.
Qui embête qui ?
Bah, qui embête... bon, on a... Voilà. Si on prend l'exemple de la Palestine, on publie des livres sur ce sujet-là qui montrent à la fois les agissements de l'État israélien depuis 48, depuis sa fondation, qui montre aussi, qui laisse entendre des voix critiques, des voix palestiniennes, des voix israéliennes sur ces agissements, et puis qui essaye de maintenir l'espoir d'une paix juste dans cette région. Et cet espoir notamment passe, selon nous, et depuis le début, par la possibilité d'un État commun. Et aujourd'hui, quand on parle d'État commun, d'ailleurs on n'en parle pas, puisque c'est même plus question, mais notamment on attaque beaucoup le slogan, le fameux slogan qui a plusieurs formes d'ailleurs, mais de la montagne à la
enfin de From the river to the sea.
Voilà, de la rivière, donc du Jourdain. Jusqu'à la mer Méditerranée. Et La Fabrique a publié d'ailleurs un livre qui s'appelle « Pour un État commun du Jourdain à la mer ». Et ce slogan ne dit rien d'autre que il faut que les Palestiniens, les habitants de la Palestine historique, y compris les gens qui ont dû partir après 48, puissent vivre librement sur tout ce territoire, quoi, avec les Israéliens qui le souhaiteront également. Donc, il défend la perspective d'un État commun. Aujourd'hui, ce slogan est systématiquement accusé d'être antisémite. Donc, ça dérange, pour répondre à ta question, les gens qui soutiennent la politique israélienne aujourd'hui.
Et alors, comment Comment on fait pour répondre à tout ça? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on peut encore continuer d'exercer votre métier? Ou il faut passer par des canaux différents, s'organiser autrement?
Il y a plein de manières de s'organiser. Nous, effectivement, on fait des livres avec d'autres. Il y a pas. Alors, c'est compliqué d'interdire des livres, heureusement, encore. D'ailleurs, si tous ces livres dont on parle là ont fait polémique, c'est parce que, justement, ils n'ont pas été interdits et qu'ils sont publiés. Chacun peut les trouver en librairie, en bibliothèque. Il y a des lois qui régissent ce qu'on peut écrire et publier. Les lois qui sont celles aussi de la liberté de la presse. On a plutôt une attaque dans un second temps, quoi, donc d'une certaine manière réinvente le délit d'opinion et cible l'expression de certaines positions. Pour revenir sur le, bon, c'est le sujet du jour, mais par exemple. Depuis le 7 octobre, depuis 2 ans, les motifs juridiques de l'apologie du terrorisme et de l'incitation à la haine ont été complètement instrumentalisés et mobilisés pour attaquer les voix qui défendent le peuple palestinien et la résistance palestinienne.
Oui. Et alors, est-ce que vous risquez d'autres choses? Là, c'est une enquête qui est sortie par Le Point, mais est-ce que, mettons, dans le monde de l'édition... et du livre en France, quand on a ce genre de position, est-ce qu'on risque la faillite? Est-ce qu'on risque des amendes?
Ah non, la faillite, non. Ça, c'est... Au contraire, ça fait de la pub. On voit bien à l'occasion de ces campagnes que un certain nombre de gens nous soutiennent et puis se reconnaissent dans ces positions. Les livres sont aussi des pavillons un petit peu, donc ça permet aussi de rassembler les gens finalement et de se retrouver. Donc non, on risque pas la faillite.
Au contraire, vous allez continuer?
On va continuer, on a encore une fois le soutien des libraires qui aussi continue, ils se laissent pas intimider, ils continuent de défendre ces livres-là et c'est pour ça qu'ils sont attaqués.
Alors peut-être pour revenir sur l'ADN de cette maison d'édition, La Fabrique. Donc, elle a vu le jour en 98 par un certain Éric Hazan. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur? Qui était-il?
Alors, déjà, c'est la personne qui nous a appris le métier, à moi et Stella, depuis plus de 10 ans qu'on a pu, 15 ans qu'on a travaillé à ses côtés et après... c'est lui qui nous a donné les clés de la boutique un petit peu. C'est quelqu'un qui connaissait très bien son métier et qui avait qui a donné son intention à cette maison et qui l'a menée, c'est-à-dire de faire, comme il disait, des livres qui font bouger les lignes et qui participent à subvertir l'ordre établi. Voilà, donc son héritage est dans tous les livres publiés à La Fabrique depuis bientôt 30 ans. Et voilà.
Je propose qu'on revienne un petit peu là-dessus après cette pause.
Exactement, le rôle du livre dans la résistance face à l'extrême droite, c'est avec Jean Morisot au micro de Béatrice. Et on continue juste après une interlude musicale avec Agar Agar, You Are High.
Thank you.
Et c'était Agar Agar, You Are High. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et donc, on poursuit cette interview avec notre invité de la soirée, Jean Morisseau. Jean Morisseau, avant cette interlude musicale, nous étions un petit peu sur donc, l'historique de la maison d'édition La Fabrique, créée en 1998 par Éric Hazan. Est-ce que dans les lignes de cette maison d'édition, ça a toujours été une question aussi de faire, comme tu disais tout à l'heure, hein, Éric disait, il faut faire bouger les lignes. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN, c'est ça, hein, de la maison d'édition.
Oui, c'est ça. Donc ça, c'est, j'en ai parlé beaucoup, mais sur la Palestine. Encore une fois, c'est l'idée, pas seulement publier des livres qui font l'état des lieux, mais des livres qui font aussi des propositions. Et donc, sur la manière dont on résiste, par exemple, toutes les possibilités du boycott, qui ont été aussi criminalisées d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais ça a été déjà une des premières angles d'attaque des gens qui écrivent dans Le Point et ailleurs aujourd'hui, et donc d'imaginer d'autres choses aussi, quoi, d'autres voies.
Ouais. Parce que tout à l'heure, un peu en lisant un peu sur Internet des choses par rapport à La Fabrique, je suis tombée sur un passage où des lecteurs qui avaient un jour lu un des livres qui avait été publié chez vous disaient que ça avait radicalement changé leur vie et que s'il n'y avait pas eu finalement La Fabrique, il y a des choses sur lesquelles ils ne seraient pas allés, quoi.
Ouais, je pourrais pas dire le contraire. Moi-même, j'ai été d'abord lecteur de La Fabrique, donc je comprends ça. Ça, c'est bon, c'est le grand mérite d'Éric Hazan et aussi, voilà, de tous les auteurs et toutes les autrices qu'il a su réunir autour de lui. Ça fait partie de, effectivement, les livres servent à ça, quoi.
Mais est-ce que c'est pour ça que la droite craint tellement tout ce milieu de l'édition ? C'est parce que ça change des vies ?
Oui, ça leur met une épine dans le pied. Ils n'ont pas besoin d'écrire beaucoup de livres, en fait. Quand on regarde la production livresque de l'extrême droite, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, il y a des titres dont on entend beaucoup parler, mais à part Philippe Devilliers et Jordan Bardella, il n'y a pas grand-chose. Donc, effectivement, le livre permet ça, le livre de sciences humaines permet ça, en littérature aussi, d'imaginer d'autres possibles. Et donc, pour ceux qui sont bien dans le statu quo, ça n'a pas grand intérêt.
Et pour revenir un petit peu sur l'actualité, donc ces derniers temps, il y a beaucoup de choses, ça bouge, quoi, au niveau du vandalisme et du mal qui est fait aussi à la liberté d'expression. Est-ce que c'est nouveau ou c'est des choses qui ont toujours été présentes ?
Il faudrait demander à des historiens, mais le livre a toujours été un commerce surveillé, ça c'est sûr, ça a toujours préoccupé les pouvoirs. Pendant la Révolution, vous avez, ou plutôt dans les années qui précèdent la Révolution française, vous avez tout un tas de publications qui circulent sous le manteau, de pamphlets, de choses qui tournent en dérision la monarchie, le Louis XVI, Marie-Antoinette, bon, et puis des textes qui aussi remettent en cause l'ordre social. Donc, et évidemment, ces livres étaient interdits, punis, etc. Il y a une grande histoire de la censure à faire. Donc, le livre a toujours été, pendant la guerre d'Algérie, d'ailleurs, des grandes maisons d'édition indépendantes se sont nées à ce moment-là, parce qu'il fallait, je pense à Minuit, je pense à Maspero ensuite, il fallait pouvoir... dire les choses, et donc le seul moyen c'était de faire des livres. S'ils étaient interdits, il fallait les faire quand même et les passer sous le manteau. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce régime-là de l'édition pirate sous le manteau, mais le livre inquiète toujours et les pouvoirs essayent toujours par différents moyens d'empêcher, quoi, ce qui les dérange.
Parce que dans votre tribune, vous citez que là, dernièrement, 40 librairies se sont vues donc refuser un financement par un conseil qui se passe ici à Paris. Et vous disiez que c'était la première fois depuis...
Alors, depuis en tout cas, il y avait une subvention qui avait été votée pour 40 librairies indépendantes parisiennes, et au prétexte que l'une d'entre elles, la très belle librairie Violette & Co., défendait un livre, on en a parlé tout à l'heure, donc ça ira vite, qui s'appelle From the River to the Sea, qui est un livre de coloriage, hein, au prétexte qu'elle défendait ce livre accusé d'être antisémite, la subvention a été bloquée par des élus de droite, notamment. Et donc, ça a évidemment touché, et ça touche, les 40 libraires, quoi.
Je précise aussi que cette librairie est une librairie féministe et LGBT. Ouais. Ça peut aussi peut-être jouer sur...
Sûrement, et ce n'est pas la première fois qu'ils sont... qui sont attaqués. Et effectivement, cette question-là et ces positions-là sont particulièrement attaquées par l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est un des angles prioritaires, ouais, des attaques. Ouais.
Donc l'indépendance va devenir une vraie... une vraie question, quoi, aujourd'hui. Rester indépendant, comment et à quel prix ?
Bah, l'indépendance, c'est une question depuis le départ, mais effectivement, elle s'est accrue dans les années, à la fin des années 90, où il y a un gros phénomène de concentration dans l'édition, concentration capitalistique, donc beaucoup de petites maisons disparaissent ou rejoignent des grands groupes. On les connaît, ces grands groupes, c'est Hachette, Editis, etc. Et c'est 80% de la production de livres en France, mais la production standardisée. Effectivement, là où les choses nouvelles s'inventent et se créent, c'est chez les autres, les petits éditeurs indépendants, que ce soit en littérature ou en sciences humaines. Il se trouve que depuis quelque temps, on voit aussi quels sont les effets de cette concentration, les effets directement politiques, puisque avant, bon, le propriétaire du groupe qui détenait Editis via des holdings, etc., on ne savait même plus qui c'est, quoi. Il y avait les actionnaires. Bon, là, avec Bolloré, les choses sont un peu plus claires, puisque lui affiche un programme politique et rachète un groupe et fait d'une des maisons de ce groupe, Fayard, le vaisseau amiral de son idéologie. Donc, on voit là directement comment un agenda réactionnaire essaye de se saisir du monde du livre pour arriver à ses fins, quoi. Avec un succès limité quand même, hein, mais enfin, je veux dire en termes de production de livres, mais avec des effets, par contre, sur les maisons du groupe, etc., et puis les gens qui y travaillent, ça c'est sûr.
Ouais. Et est-ce que le fondateur de la fabrique, donc Eric Hazan, avait anticipé ça? Parce qu'il est décédé en 2000...
Il est décédé en 2024.
C'est ça, récemment.
Bah, il a vu ça de très près. Ouais. Lui, il en avait même été victime d'une certaine façon, puisque, vous l'avez dit, il a repris les éditions Hazan fondées par son père, qui, pour des raisons financières, ont ensuite été vendues à Hachette en 1995. Et puis très vite, alors qu'on lui avait dit, bah voilà, on ne touchera à rien, évidemment, vous ferez ce que vous voulez. Très vite, en fait, le compte d'exploitation prévisionnelle a pris le dessus et il fallait être rentable, il fallait... voilà. Donc, pour lui, très vite, cette question s'est posée de l'indépendance. Et quand il a créé la fabrique, c'était une évidence qu'il fallait être indépendant du point de vue du capital, du point de vue des banques, et puis donc, par conséquence, de pouvoir avoir une ligne éditoriale complètement indépendante.
Oui. Est-ce qu'il vous a laissé un mot avant de partir par rapport à ça? Comment il va falloir s'équiper, quoi, pour faire face à ce changement de démocratie?
Non, ben on a avancé ensemble pendant des années, donc on l'a côtoyé au quotidien, on était d'accord évidemment sur ça. Comment... le problème est un peu plus large que ça, parce qu'une maison d'édition indépendante, finalement, c'est pas très compliqué, mais il faut aussi pouvoir compter sur un diffuseur, un distributeur, qui soit lui-même indépendant des grands groupes, puisque les grands groupes d'édition sont des grands groupes de distribution-diffusion. Il faut pouvoir compter sur des libraires indépendants qui font leur choix eux-mêmes. Ça, on a de la chance d'en avoir beaucoup en France. D'avoir des librairies partout, vous vous promenez à Londres, il faut marcher longtemps pour voir une librairie. Donc il faut maintenir ce réseau de librairies. Et puis on peut pousser, il faut des médias indépendants aussi pour discuter des livres et des opinions qui s'y expriment.
Merci Jean Morisseau d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Ce dimanche 7 décembre à la Bellevilloise, la maison d'édition La Fabrique vous donne rendez-vous au salon Mi-Livre, Mi-Raisin, le salon du livre et des vins d'auteur où 30 maisons d'édition et 30 vignerons vous attendent. Merci Béatrice pour cette interview et quant à nous, on se retrouve avec Yana pour le Flash Info.
Ouais. Le flash info de la matinale de 19h.
Au niveau de l'Île-de-France, un nouveau poste a été créé aujourd'hui par la mairie de Paris pour lutter contre les violences sexuelles à l'école. C'est Dominique Versino, l'actuel adjoint de la maire Hidalgo, qui est nommée au titre de défenseur des enfants de Paris. Elle cherchera à assister les enfants et leurs parents et à élaborer un système de prévention efficace. La justice sera saisie si un enfant se trouve en situation de danger. En France, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, libéré récemment de sa détention en Algérie, qualifie le pays de dictature après qu'elles aient condamné à nouveau un journaliste, le français Christophe Glaise. Dans le monde, le président de la Fédération de Russie, Poutine, est attendu aujourd'hui à New Delhi pour la première fois depuis que Moscou ait lancé son offensive en Ukraine. Il ne restera que 30 heures dans la capitale indienne, avec pour objectif principal de discuter du partenariat stratégique entre les deux puissances. L'enjeu pour le Kremlin est de renforcer sa relation avec l'Inde pour faire reculer la présence américaine dans le pays. Du côté des États-Unis, le président Donald Trump se prépare à accueillir aujourd'hui le président de la République du Congo Tshisekedi et le président rwandais Kagame pour signer l'accord de paix conclu en juin dernier. Il est censé mettre fin à la guerre sanglante qui se déroule en ce moment à l'est du Congo. Et finalement, une nouvelle étude du Pesticide Action Network est sortie. Elle a été menée à travers 16 pays européens et l'étude dit avoir détecté des niveaux élevés de polluants éternels dits PFAS dans nos produits céréaliers. Les aliments les plus contaminés sont les céréales pour le petit-déjeuner avec 100 fois plus de concentration que dans l'eau du robinet. Et attention, en France, c'est notre baguette de pain qui semble contenir le plus de ces pesticides.
Merci Tiana pour ce point actu. Je voulais justement manger moins de gluten, c'est parfait, je vais me calmer sur la baguette. Et alors, tout de suite, on retrouve Julie pour sa chronique actu. Mais avant ça, une petite trêve musicale avec Bloodline de Ariana Grande.
Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.
Take it or leave it, like, don't want you in my bloodline, just wanna have a good time, ain't no need to apologize, no, but you gon' have to let this shit go, don't want you in my bloodline, not tryna make you all mine, ain't no need to apologize, no, but you gon' have to let this shit go. Take it or leave it, like, don't want you in my bloodline, just wanna have a good time, ain't no need to apologize, no, but you gon' have to let this shit go, don't want you in my bloodline, don't want you in my, not tryna make you all mine, not tryna make you, ain't no need to apologize, ain't no need to, but you gon' have to let this shit go, yeah.
Line d'Ariana Grande. Et tout de suite, comme promis, c'est la chronique actu de Julie qui nous parle des galères de recherche d'emploi. Julie, c'est à toi.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Elle nous prend la tête et notre mal en patience. Elle est d'actualité, mais depuis plusieurs mois. Preneuse d'otages du quotidien, elle est là en permanence. Je suis la recherche d'emploi. Actualité de ceux qui ne sont plus étudiants mais pas encore jeunes actifs. Une période d'entre-deux absolument vicieuse qui empêche toute stabilité, toute planification du futur mais ne reconnaît aucune valeur aux heures et heures et heures de recherche désespérée. J'aimerais passer un message sur les ondes radiophoniques parisiennes. Vous n'êtes pas seuls. À tous ceux qui attendent plus les nouvelles sorties sur Indeed que sur Netflix, vous n'êtes pas seuls. À ceux qui, angoissés par la question « Tu fais quoi dans la vie ?»« je recherche actuellement. »« Ah ok, mais il n'y a pas de mal, hein ? Et tu recherches dans quoi ?»« Oh ben moi, tu sais, dans n'importe quel secteur qui voudra bien me laisser une chance. » La recherche d'emploi, envoi de candidatures à tour de bras, recherche d'emploi en proie à l'incertitude et à l'embarras, recherche d'emploi en plat dans lequel il faut mettre les pieds, recherche d'emploi d'endroits qui voudront bien nous accepter. Un mal fou à se lever le matin, puisqu'on sait pertinemment qu'on n'a rien de prévu. Aucune obligation, aucune responsabilité. Le paradis ? De l'extérieur, c'est super, du temps libre pour soi, pour faire ce qu'on veut. Mais la réalité n'est pas celle-là. C'est plutôt un sentiment d'échec, quand on n'a pas le travail après avoir passé chaque entretien. Un coup dans l'estime de soi, quand on n'a pas d'entretien après avoir envoyé chaque candidature. Une impression de ne pas faire assez quand on n'a pas la candidature parfaite après avoir regardé chaque annonce et une culpabilité quand on n'a pas regardé les annonces pendant chaque instant de notre quotidien où on s'octroie le droit de faire autre chose. En bref, on y pense tout le temps. On se sent coupable de vouloir des distractions et en plus de ça, on n'a pas d'argent. J'en suis venue à me dire que Sugar Baby est finalement un plan de carrière tout à fait légitime. Alors si je suis venue aujourd'hui au studio, si je me suis dépêchée de venir en courant après ma journée extrêmement remplie, c'est pour venir vous partager un message. Vous n'êtes pas seule. Nous sommes des milliers dans le même bateau. Ce n'est pas l'appel du 18 juin, mais celui du 4 décembre. Je ne suis pas le général de Gaulle, mais je serai la géniale épaule sur laquelle vous pourrez pleurer. Parce qu'il faut le dire, c'est psychologiquement fatigant de rester positif et d'assurer que je suis la personne dynamique et compétente qu'il vous faut, quand notre ego a été détruit à petit feu par la vue des profils LinkedIn de nos proches. Mais en sortant, en rencontrant d'autres gens, on se rend compte qu'on est énormément dans le même cas, à galérer à trouver du travail. Et ce, dans tous les domaines. On est tellement que ça donnerait presque l'impression qu'il y a un souci quant au marché de l'emploi, quant à la société, voire quant au capitalisme, mais c'est un autre sujet. En attendant, un message. Un jour, on y arrivera. On ne sait pas encore quand, comment, quel sera le chemin, quelle sera l'entreprise, quelle sera la révolution du monde du travail qui devra avoir lieu, mais on y arrivera. Et c'est finalement la beauté du futur, qu'il soit inconnu, qu'il soit imprévu, et qu'il reste bien des mystères sur la suite de nos existences. Pour garder du baume au cœur, je vous partage un petit bon plan. Énormément de musées sont gratuits pour les demandeurs d'emploi. Il suffit de s'inscrire sur France Travail, même si vous n'êtes éligible à aucune aide. Par exemple, les catacombes sont au tarif réduit pour les moins de 26 ans, mais gratuites pour les demandeurs d'emploi. Donc sortez, apprenez, rencontrez, et un jour ou l'autre, ça va marcher.
Merci Julie, je suis aussi chercheuse d'emploi, je fais partie de ce magnifique club, donc voilà, cherche du taf, place à là, on sait jamais. Et alors, ce soir, nous inaugurons un tout nouveau format dans la matinale, ça s'appelle « C'est quoi ton taf ?». Le principe est simple, un invité qui nous fait découvrir son métier et aujourd'hui, avec nous, Léna Michel, éducatrice comportementaliste canin et félin.
Mais dis-moi, c'est quoi ton taf ? deux jeudis par semaine dans la matinale de 19h.
Bonsoir Léna, comment ça va?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir que tu ouvres le bal.
Ouais, bah c'est cool.
Alors, éducatrice et comportementaliste canin et félin. Moi, exactement. Personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Alors, première question, quelles sont les missions?
Moi, mon métier, ça va être, on va dire, mon rôle avant tout d'accompagner les propriétaires de chiens et de chats qui ont rencontré des problématiques avec leur animal ou alors qui viennent d'adopter, par exemple, un chiot et qui ont besoin d'un accompagnement professionnel. Donc voilà, je suis experte du comportement du chat et du chien.
Alors, les animaux ont comme nous de la communication, des langages.
Mmh, exactement.
Comment on décrypte ce qu'un animal, bon là on va prendre les chiens, ce qu'un chien nous raconte?
Il y a plusieurs canaux de communication. Le chien, il va avant tout communiquer avec son corps. Donc c'est important de pouvoir affiner son œil. Moi, c'est aussi mon rôle d'accompagner les propriétaires dans comment regarder son chien, les signaux qu'on va pouvoir observer, comment se positionnent les oreilles, comment sont les yeux, la posture globale du corps, comment est la queue. Et avec ces postures et sa communication, on peut comprendre aussi ses états émotionnels. Est-ce que là, on a un chien qui est plutôt stressé, un chien qui est plutôt joyeux, content, excité? Et on apprend comme ça à communiquer un petit peu avec son animal.
Alors, avant qu'on aille un peu plus dans le détail de ton job, c'est quand même un job particulier. À quel moment tu as eu cet amour pour les animaux?
Je ne saurais pas dire vraiment le moment précis. J'ai toujours été passionnée par les animaux et surtout le comportement. Observer les animaux, voir comment ils interagissent entre eux, que ce soit de la toute petite fourmi au chimpanzé. On a fait avec mes parents, ma famille, beaucoup de voyages où j'ai pu aussi observer la faune et c'est resté. Je me suis dit, je vais travailler avec les animaux. Donc j'ai voulu au début être vétérinaire, puis soigneuse animalière et puis j'ai travaillé dans une association de protection animale. Et c'est là où j'ai vraiment... je me suis plus intéressée aux chats et aux chiens et j'ai vu en fait le nombre d'abandons qu'il y avait dans les refuges et dans cette association-là qui était généralement due en fait à une incompréhension. Il y avait plusieurs raisons, mais souvent c'était l'incompréhension des humains face au comportement de leur animal et du coup ça découlait une abandon finalement. Et là, je me suis dit, en fait, il y a un vrai. Il faut former les humains pour qu'ils comprennent mieux leurs chiens et leurs chats et qu'ils cohabitent mieux.
Et c'est là que, depuis un an maintenant, tu as monté ta propre entreprise.
C'est ça.
Ça aussi, c'est un choix.
Oui.
Tu aurais pu rester dans une asso. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de monter ta propre boîte?
En fait, après l'association, j'ai décidé de me former pour être vraiment professionnelle dans le comportement canin et félin. Donc j'ai fait une formation d'un an. Et en fait, finalement, pour exercer le métier de comportementaliste canin et félin, tu n'as pas trop de choix. Il faut que tu te lances. Généralement, il n'y a pas d'organisme qui regroupe, de société qui regroupe en fait, des éducateurs et des comportementalistes. Généralement, c'est un métier que tu exerces seul, finalement.
Indépendant.
Exactement.
Et alors, pour que nous, on se représente un peu plus et que ce soit un peu plus concret, est-ce que tu as une belle histoire, tu vois, un peu une histoire de cinéma, une histoire de film, avec un maître ou une maîtresse et son animal, où ils étaient en galère au début, et t'arrives, et au fin, après quelques séances, ça y est, ça refonctionne.
Depuis un an, j'ai vu beaucoup de chiens, beaucoup de cas. J'en ai choisi un, c'est celui de Loki. Donc c'est un petit chiot qui a été adopté dans un élevage, un petit Westie, donc chien de terrier, qui arrive dans une famille, donc un couple avec deux enfants, deux jeunes filles primaires. Et c'est un chiot qui a été adopté à 2 mois, donc assez tôt. Légalement, c'est 8 semaines pour l'adoption, mais ça reste tôt. Donc a un sevrage précoce, du mal à gérer ses émotions. La famille ne s'en sort pas. Un chien qui va pas supporter les manipulations, la frustration, qui va avoir du mal à réguler ses émotions. La vétérinaire... leur dit qu'il a un syndrome hyperactivité, hypersensibilité, qui en fait était assez faux. Le diagnostic, c'était pas vraiment le bon. On a démarré les sessions. Les gens étaient énormément investis. Donc ça compte aussi beaucoup dans un suivi. Ils ont bien écouté mes conseils. Ils ont tout appliqué. On a fait un suivi qui a été génial. Et en fait, à la fin de ces 5 séances, le chiot, super équilibré, top. Et les gens étaient juste super contents. Et surtout, on a pu créer un lien avec les propriétaires. Donc le chien avec... le couple, mais surtout avec les jeunes filles qui avaient peur au début du chien de ses comportements et qui finalement, le chien était super inclus dans la famille. Donc, c'est hyper, pour moi, c'est top, quoi.
C'est recréer du lien, ouais. Même dans une même famille, reformer la famille, quoi.
Et se dire que c'est en partie grâce à moi, mon travail, c'est top, quoi.
Alors, pour tout et toutes les auditeurs, auditoristes qui tous écouteraient et qui se diraient « Bon, j'ai envie d'avoir un petit peu, moi, des petits tips pour mieux m'en sortir avec mon chien, ma chienne. » J'avais envie d'avoir ton avis sur la punition. Comment ça se passe, cette histoire? Quand on peut punir et quand on ne peut pas punir son chien?
C'est la punition, en réalité, c'est assez contre-productif. Ce qui est important avant de punir, c'est comprendre pourquoi le chien il fait ce comportement. En fait, qu'est-ce qui a mené le chien à, par exemple, quand je rentre, détruire le livre qui a traîné sur la table. Voilà. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on essaye de comprendre, eh bien, il faut réadapter son comportement, réaménager l'environnement. Le fait de punir le chien, ça ne va pas l'empêcher de reproduire le comportement. Au contraire, ça peut dégrader la relation qu'il a avec son propriétaire. Si après, les gens se sentent débordés, qu'ils ont l'impression que le chien fait bêtise sur bêtise, qu'ils ont du mal à comprendre justement les comportements, mon métier apparaît. Et c'est là que j'aide les gens justement à comprendre pourquoi le chien fait tel et tel comportement.
Ok. Alors justement, si on peut spécifier un comportement en particulier, moi qui me fais tellement peur quand je suis dans la rue, moi je traverse quand je vois ça, c'est les grognements. En plus, j'ai l'impression souvent c'est les petits chiens, un peu énervés comme ça. Moi, c'est les petits chiens qui me font chaque fois le plus peur, je sais pas vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un grognement de chien?
En fait, le grognement, ça fait partie de la communication du chien. La communication du chien, c'est comme une échelle. On a les premiers signaux qui indiquent que le chien va être un petit peu en inconfort, stressé. Je peux les citer. Vous avez le bâillement, par exemple. Un chien qui va bâiller, qui se lèche la truffe, qui déglutit, qui va se secouer. Il y a plein de petits signaux un petit peu précurseurs pour communiquer que le chien est inconfortable. Et plus on avance en fait dans l'inconfort, plus le chien est stressé, inconfortable face à quelque chose qui va lui faire peur, par exemple, plus les signaux vont être intenses. Et le grognement fait partie de ces signaux-là, un petit peu plus intenses. Et c'est vraiment une demande de mise à distance finalement du chien face à ce qui pourrait lui faire peur. Donc par exemple, si moi, ça m'arrive dans mon métier, j'arrive pour la première fois chez des gens et le chien me grogne dessus. En fait, juste, il y a une raison. Donc c'est pour ça, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a peur de l'humain ou de moi en particulier. Il me prévient, t'approches pas plus, j'ai peur. Et c'est à moi de respecter cette communication et justement de pas la punir. Le risque et ce que les gens font, et parce qu'ils ne savent pas forcément, c'est de punir le grognement. En fait, on vient casser la communication du chien, on vient punir cette communication. Et ce que le chien comprend, c'est que, ok, si je grogne, ça sert à rien. Donc la prochaine fois, je vais pas prévenir et je vais directement essayer de mordre. Et donc c'est ça qui peut se passer.
C'est contre-productif.
Exactement. Donc c'est important de, soit si on n'arrive pas à comprendre, justement, faire appel à un professionnel. Essayer de comprendre pourquoi le grognement et à ce moment-là réaménager l'environnement, la situation, essayer de comprendre le contexte.
À part ces punitions lorsque le chien grogne, par exemple, est-ce qu'il y a d'autres erreurs qu'il faut bannir ?
Souvent, c'est un manque de cohérence que je vois, en tout cas moi, chez mes clients. Ça va être manque de cohérence face au chien, des comportements qui peuvent être ambivalents, où on va être tout excité, tout foufou et montrer tout notre amour à notre chien. Mais dès qu'il y a un faux pas, tout de suite, on va venir gronder. Et donc, cette ambivalence-là au niveau de l'émotionnel, le chien, il marche un peu sur des œufs. Donc ça peut générer après des problématiques comportementales chez le chien. Une sous-estimation aussi des besoins physiques et cognitif. Moi, ce que j'observe beaucoup chez mes clients et les erreurs, c'est qu'ils ne connaissent pas les besoins du chien. y a les besoins physiques, hein, courir, se dépenser, jouer, aller chercher la balle, etc. Mais il y a aussi les besoins cognitifs, les besoins masticatoires, par exemple, les besoins de, olfactifs. Tout ça, c'est des choses où, quand j'en parle pendant mes suivis, les gens découvrent. Et ces besoins-là, s'ils ne sont pas remplis, ça peut mener justement à des problématiques comportementales. Dans les erreurs, il y a aussi l'humanisation du chien. J'avais une cliente, par exemple, elle laissait pas son chien renifler les odeurs. Dès qu'il y avait une odeur que son chien mettait le nez dessus, un pipi, par exemple, hein, d'un autre chien, elle dégainait sa lingette et puis elle lavait tout son chien du museau à la queue. Ça, c'est... Non, c'est normal que le chien sente les odeurs. Donc, voilà. Et toutes ces petites erreurs-là, juste de méconnaissance, finalement, ben, voilà, ça peut mener à des problématiques après.
Donc finalement, tu travailles plus avec les humains qu'avec les animaux.
Tout à fait, c'est ça. Et c'est ce qu'on nous avait dit d'ailleurs en formation. Dans ma formation, il y a une partie psychologie qui est super importante aussi parce que avant tout, on travaille avec l'humain. On forme l'humain et c'est l'humain ensuite qui forme son chien au quotidien.
Léna Michel, merci d'avoir été avec nous sur la matinale de 19h. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, allez jeter un coup d'œil sur la page Insta ou sur le site internet Petit Museau & Co. Et en ce moment, un petit calendrier de l'Avent, une vidéo par jour pour mieux comprendre le comportement du chat et du chien, vous attend. Juste avant de retrouver Joey et sa chronique sur Brigitte Bardot, je vous laisse avec une musique, une interlude musicale, Brigitte Bardot, justement, Harley Davidson.
Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je quitte la terre, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin.
Attention.
Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent.
Et c'était Harley Davidson de Brigitte Bardot. Et tout de suite, pour sa chronique actu, sa chronique libre même, eh bien c'est Joey qui nous parle de la très 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 récente sortie cinématographique, le biopic sur Brigitte Bardot.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Aujourd'hui, chers auditeuristes, je vous parle d'une légende, une vraie resta, pas une star de télé-réalité qui vendrait du shampoing sur Insta. Non, non, une véritable icône, je vous dis. deux initiales, bébé pour Brigitte Bardot. C'est l'histoire d'une femme qui, dans la France en noir et blanc, a carrément défoncé le mur de la morale bourgeoise. C'était pas juste une actrice, hein, vous trouvez pas. C'était un phénomène de société fascinant, devenu au fil du temps un véritable mythe. Le doc qui sort sur grand écran cette semaine, sobrement intitulé « Bardot ne va pas nous servir la soupe », et c'est tant mieux. Il va nous montrer l'icône, la cible, la militante, mais aussi l'être humain et ses failles. Alors allons-y, bande-annonce.
Brigitte Bardot est the myth built on deep fragilities.
Je suis née libre et je mourrai libre.
Toute sa vie, elle a tenté de la perdre.
Et voilà ce qu'on tue.
Ça a été la première personnalité d'envergure à s'engager sur la cause animale.
She was a dancer, she was a model, an actress, a singer.
La gloire, c'est formidable et c'est invivable.
On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer.
Je me fous qu'on se souvienne de moi, mais ce que je voudrais, c'est qu'on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux.
Bardot, l'actrice française qui a inventé la liberté féminine sur pellicule. Avant que le mot émancipation ne soit sur toutes les lèvres, elle était déjà nos limites. 1956, Dieu créa la femme, signé Roger Vadim, une tornade de sensualité naturelle, pieds nus et bouche boudeuse. Elle a bousculé tout le monde. Les plus grands réalisateurs se sont arrachés cette muse incendiaire. Jean-Luc Godard avec Le Mépris, Louis Malle, Vie privée, Clouzot pour La vérité. Ils ont filmé sa beauté incandescente, mais aussi la violence et les revers de la célébrité. Sa vie, c'était carrément un terrain de jeu pour paparazzi. Vous croyez connaître l'extravagance avec les Kardashians? Eh bien, en 1968, son mari de l'époque, le playboy Gunther Sachs, balance des milliers de roses par hélico sur sa propriété de la Madrague. La Madrague, aujourd'hui devenue carrément la tour Eiffel de Saint-Tropez. C'est aussi l'histoire d'une star mondiale que même les pop stars américaines adoraient. Elle fut la muse de Warhol et des plus grands artistes de cette époque. Sa discographie reste impressionnante. Gainsbourg lui compose ses plus grands tubes. En 73, à 39 ans, alors qu'elle pouvait encore être la star la mieux payée d'Europe, elle dit stop, basta, rideau, terminé le cinéma, elle claque la porte. Une décision radicale, un rejet total du système qu'elle a pourtant dominé. La raison, les animaux. Elle a sacrifié ce qu'elle possédait de plus cher, vendu ses fourrures, ses bijoux, ses tableaux, sa garde-robe, toutes ses breloques qui sont passées, tout son luxe pour la défense des animaux. Elle aura troqué les projecteurs contre les phoques et les chiens errants. C'est ça Bardot, une femme d'une radicalité absolue. Alors oui, elle a le don pour les déclarations qui fâchent et là, ça pique un peu. Ses prises de position politiques, ses propos polémiques sur l'immigration qu'on ne peut pas occulter mais qu'on n'a pas forcément envie de réentendre, oui, ils ont brouillé durablement son image. Pour un certain nombre d'entre nous, elle reste clivante, controversée, c'est la face sombre. Mais un mythe sans ombre, ça serait juste une jolie pub L'Oréal. Beaucoup lui reconnaissent son combat pour la cause animale qui reste, lui, inébranlable. Allez voir ce documentaire, mais ne cherchez pas un modèle, cherchez plutôt une force de la nature, une femme qui a prouvé que la notoriété pouvait être un levier pour la cause, même au prix d'une guerre constante avec les médias et la société. Bardot, c'est l'histoire d'une bombe qui a explosé au visage de la France de papa et dont les éclats continuent de nous interroger. Allez voir Bardot au cinéma et demandez-vous quelle cause seriez-vous prête à défendre au point de tout sacrifier ?
Merci Joey pour cette chronique. On parlait de résister, ben, il me semble que la boucle est bouclée. La matinale de 19h se finit ici. Merci à vous chers auditeurs pour votre écoute, merci à nos invités du soir, merci à Béatrice, Tiana, Joey, Julie d'avoir fait vivre cette émission. Merci encore à Joey à la Réal parce que oui, il est partout et merci pour la coordination, le binôme de choc, Aude et Jeanne, et je vous dis à lundi pour une la matinale de 19h.